Deuxième émission avec vous, Rebecca Shankland, sur la gratitude. Dont dites-vous est le berceau de l'humilité. Je rappelle que vous êtes chercheuse en psychologie à l'Université de Grenoble-Alpes et que vous êtes responsable du diplôme universitaire de psychologie positive. Dans votre livre paru donc chez Odile Jacob, intitulé « Les pouvoirs de la gratitude », vous invitez les lecteurs à choisir la gratitude. Mais je ne comprends pas bien. La gratitude, ce n'est pas avant tout spontané. Est-ce qu'elle peut vraiment être programmée, Rebecca ?
C'est une très bonne question. Alors, en fait, on peut effectivement avoir cette émotion qui survient naturellement, mais on peut aussi se proposer d'avoir les conditions, de mettre en œuvre les conditions qui permettent l'émergence de la gratitude. Alors, ces conditions, c'est notamment l'humilité hein, que vous avez évoquée, c'est-à-dire cette prise de conscience que finalement, sans les autres, la vie est plus difficile et donc on a tendance à percevoir davantage finalement tout ce que les personnes au quotidien font pour qu'on puisse bénéficier de la vie qu'on a. Ça me fait penser à l'exemple d'une participante d'atelier de psychologie positive qui racontait comment elle avait fait une pratique de gratitude par rapport au thé. Elle aimait beaucoup le thé vert et elle en boit donc depuis 20 ans, plusieurs fois par jour, etc. Donc c'était devenu un peu un rituel où les différents éléments passaient un peu inaperçus. Et là, elle a pris le temps de penser à toute la chaîne de personnes impliquées dans le fait qu'elle pouvait prendre ce thé chaque jour. Et donc, elle décrit comment ça l'a reconnectée à toute cette humanité, toutes ces personnes qui plantent, qui cueillent, qui ramassent, etc. Et par la suite, ça a changé vraiment son rapport au thé. Par exemple, lorsqu'elle, à chaque fois, elle renverse quelques feuilles à côté, et puis d'habitude, elle les jetait à la poubelle. Et puis à partir de ce jour-là, eh ben, elle ne pouvait plus le faire parce que ses feuilles étaient chargées de tous ces efforts que les gens avaient fournis et qui lui permettent de profiter de ce thé chaque jour.
Mais c'est vrai que souvent, on s'habitue à avoir l'électricité, on s'habitue à avoir des supermarchés où on peut acheter ce qu'on veut. Cette façon de s'habituer, vous appelez ça l'adaptation aussi hédonique. Et vous donnez un exemple assez fou, c'est l'exemple des gens qui gagnent au loto.
Oui, c'est vrai. Alors, l'adaptation hédonique, c'est le fait de s'adapter à toutes ces choses agréables du quotidien. On a cette capacité incroyable chez l'humain de s'adapter à toutes les situations qu'on rencontre, mais on s'adapte encore plus vite à ce qui est positif, puisque ça devient très rapidement normal. Alors, par exemple, même des personnes qui gagnent 1 million au loto vont au départ avoir un pic d'euphorie, mais ensuite, au bout de quelques semaines, elles vont revenir à un niveau de base de bien-être, comme si rien n'avait changé dans leur vie. Même nous, si par exemple, on achète une nouvelle voiture, si on a une promotion, si on change de logement, au départ, pendant quelques semaines, ça va être, il va y avoir ce sentiment d'euphorie, et on pense que la vie va changer grâce à ça. Et finalement, on constate que ces dimensions matérielles, finalement, du quotidien, bien sûr, contribuent à une bonne qualité de vie, mais en fait, ne font pas vraiment la différence par rapport au sentiment de bien-être ou de bonheur.
Et ça, c'est scientifiquement prouvé ?
Oui, bien sûr, ce sont des recherches qui sont encore à leur début, donc on mesure souvent des dimensions subjectives, donc c'est les personnes qui rapportent comment elles se sentent. On a encore peu de recherches en neurosciences cognitives sur l'évolution de ces situations de bien-être dans le quotidien. Mais oui, il y a de plus en plus de recherches qui ont tendance à montrer ça.
Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire des recherches sur la gratitude ?
Ah, c'est une bonne question. En fait, moi, au départ, je suis psychologue chargée de prévention. Donc, je travaillais sur différentes dimensions qui permettent de mieux s'adapter au quotidien, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, donc les compétences relationnelles, l'esprit critique, la créativité, etc. Et en travaillant dans ce champ, j'ai découvert un peu par hasard, en fait, la psychologie positive et en particulier les pratiques de gratitude qui sont vraiment les pratiques qui fonctionnent le mieux pour l'instant dans ce champ, de même que le travail sur ce qu'on appelle les forces de caractère, c'est-à-dire le fait de se reconnecter avec toutes les forces qu'on a déjà naturellement, comme la capacité d'écoute, la capacité d'entraide. Et si on utilise davantage ces forces dans son quotidien, ça va améliorer le bien-être de manière durable. Donc je me suis intéressée à ces dimensions, donc en particulier à la gratitude. Et puis ça faisait écho à finalement, j'ai eu la chance, moi, dans mon enfance, de bénéficier de parents qui étaient très orientés vers la gratitude, c'est-à-dire le soir, par exemple, quand mon père me disait bonne nuit, ben, il repassait toute la journée et il disait ah ben merci à Juliette parce que elle est venue t'apporter un jouet que t'aimes bien, merci à la voisine, elle nous a apporté des œufs, etc. Et donc ça m'a vraiment connectée avec cette dimension que ben on a beaucoup de chance finalement dans la vie et si on n'y repense pas le soir, on passe à côté. Donc j'ai découvert ça finalement dans mon enfance et puis je le pratique du coup aussi. Donc nous on a 5 enfants à la maison et on a eu l'occasion de pratiquer sous différentes formes et on se rend compte à quel point c'est important pour les enfants. Ils apprécient vraiment ces moments par exemple à table quand on décide de parler chacun d'un événement pour lequel on éprouve de la gratitude. C'est contagieux finalement quand vous parlez de cette émotion, les autres l'aperçoivent et ça fait repenser à d'autres aspects auxquels on ne pense pas dans le quotidien.
Mais en même temps, en laissant libres les enfants, sans injonction forte.
Tout à fait. En fait, on ne peut pas forcer la gratitude. Tout à l'heure, vous disiez, c'est un choix. Oui, c'est un choix d'avoir les conditions, c'est-à-dire d'être attentif dans son quotidien, d'être empathique, c'est-à-dire de repérer les efforts fournis par les autres. Mais ensuite, on ne peut pas commander à la gratitude d'arriver. Et donc, pour les enfants, en fait, ils vont surtout découvrir cette émotion à travers l'expression des adultes qui sont autour d'eux. C'est-à-dire, si nous, on oriente notre attention vers ces dimensions-là, si nous, on remercie, par exemple, les enfants de nous avoir aidés à faire la cuisine, ben, ils vont avoir cette prise de conscience qui est, ah oui, il y a des gens qui font des efforts pour aider les autres, et petit à petit, ça développe l'empathie et donc la capacité à éprouver la gratitude.
Y a-t-il pas un risque d'effacer un peu les parts d'ombre, de ne voir que le côté lumineux, et puis finalement, ça peut être un petit peu dangereux, non ?
Oui, c'est vraiment ce qu'il faudrait éviter de faire. En fait, dans la psychologie positive, on n'essaye pas de remplacer ce qui ne va pas par ne voir que ce qui va bien. On essaye simplement de rééquilibrer. C'est-à-dire, si on a tendance à se retrouver dans une impasse où on ne perçoit plus que les choses négatives ou ce qui ne va pas ou l'autocritique, etc., alors on n'arrive plus à avancer. Donc l'idée des pratiques de psychologie positive et en particulier de gratitude, c'est simplement d'élargir l'attention pour voir aussi les autres dimensions sans oublier ce qui ne va pas. Mais au contraire, ça va augmenter la vitalité, ce qui nous donne suffisamment de courage et d'énergie pour affronter ce qui ne va pas. Donc c'est vraiment une façon complémentaire finalement d'aborder le quotidien, de faire face au quotidien, en particulier quand c'est difficile.
Vous appelez ça l'ouverture attentionnelle, c'est ça ?
Oui, exactement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est qu'on ne perçoit plus qu'une partie de la réalité. Et donc ces pratiques visent vraiment à élargir l'attention pour percevoir de manière plus globale à la fois ce qui se passe dans le quotidien, mais aussi ce qu'on retient, ce qu'on a en mémoire.
Alors vous parlez de pratiques de gratitude, vous avez partagé ce que vous faites par exemple en famille le soir, de se partager des éléments où vous avez envie de dire merci à l'un ou à l'autre, ou à la nature, ou aux voisins. Et vous avez parlé la fois dernière aussi de journal de gratitude. Qu'est-ce que c'est exactement le journal de gratitude ?
Alors en fait, ce que montrent les recherches, c'est que lorsqu'on repense seulement à un événement, ça va survenir de manière très éphémère et ça va moins s'engranger en mémoire. Alors que si on prend du temps pour écrire cet événement positif ou cette gratitude qu'on éprouve, alors on va vraiment encoder de manière plus forte cet élément en mémoire et donc on y a plus facilement accès par la suite. Donc par exemple, des personnes qui pratiquent ce journal de gratitude, c'est-à-dire ils vont noter chaque soir jusqu'à 5 choses pour lesquelles ils éprouvent de la gratitude qui se sont passées, des petites choses du quotidien. Ça peut être quelqu'un vous a tenu la porte quand vous êtes rentré dans le magasin et que vous étiez très chargé, un ami ancien vous a appelé, ça vous a fait plaisir, voilà, des petites choses du quotidien. Si vous notez ça, par la suite, lorsqu'on vous demande quel est votre degré de satisfaction par rapport à votre vie d'une manière générale, ou si on vous demande de rapporter 10 souvenirs, vous allez avoir tendance à noter beaucoup plus d'éléments positifs, beaucoup plus de satisfaction par rapport à votre vie, comparé à des personnes qui n'auraient pas fait cet exercice.
Alors on parle de journal de gratitude, mais on peut parler aussi de lettres de gratitude. Par exemple, des temps comme Noël ou l'été où on a le temps, où on est en vacances, de profiter de ce temps pour écrire une lettre assez précise, dites-vous, avec des choses. Merci parce que tel jour, j'avais pas le moral et on a dîné ensemble et ça a été vraiment un rayon de soleil dans ma vie, par exemple. Ce style de choses ?
Alors, on est tous conscients que c'est important de dire merci Et ça se confond parfois avec la politesse. Donc, par exemple, des fois, quand on n'a pas le temps, on va écrire un petit mail ou un petit texto en disant « merci pour tout ». Et en fait, ça n'a pas du tout le même impact que de vraiment détailler en quoi c'était important pour vous. Donc là, l'exemple que vous donnez, « merci d'avoir pris ce temps parce que ». Et là, on va décrire en quoi c'est important pour nous. Et ça reconnecte aussi la personne qui reçoit cette lettre de gratitude à ses propres valeurs, à son sentiment d'utilité sociale. Donc ça va générer beaucoup de bien-être aussi pour la personne qui reçoit la lettre et pour la personne qui l'écrit, parce qu'elle aussi, du coup, se reconnecte avec ses valeurs, ce qui donne du sens à sa vie.
Gagnant-gagnant.
C'est ça, exactement.
Et puis aussi, vous parlez de visite de gratitude. On peut aller voir une personne, bien sûr, pour lui dire merci, mais une visite vraiment gratuite comme ça. Et même, on peut avoir écrit la lettre avant et la lire devant la personne.
Oui, alors ça fait partie des expérimentations de psychologie, des recherches en psychologie qui ont été faites, même si on apporte un peu plus de nuances aujourd'hui par rapport à cette pratique, parce que, par exemple, une personne qui est introvertie, qui est timide, lorsqu'on lui propose d'aller lire cette lettre à voix haute, en frappant à la porte de son ami, on se rend compte que ça peut avoir aussi un effet contre-productif, parce que la personne, c'est pas facile pour elle d'exprimer ses émotions, elle n'a pas l'habitude non plus de gérer les émotions d'autres, parce que la gratitude, ça va générer des émotions fortes en face. Et donc, ça va plutôt générer un sentiment d'inadéquation, un sentiment de malaise. Et donc, ce n'est pas forcément la pratique qui va être la plus simple ou la plus efficace par rapport au sentiment de connexion sociale. Donc, ce qu'on propose plutôt, c'est vraiment chacun de sentir ce qui lui correspond le mieux. Pour certains, ça va être de l'écrire dans son coin. Pour d'autres, ça va être d'envoyer une lettre. Mais l'idée, c'est vraiment simplement de repenser à des personnes qui ont été importantes pour vous et que vous n'avez pas eu l'occasion ou que vous n'avez pas pensé à remercier parce que c'était normal, entre guillemets. Par exemple, un instituteur qui a été important pour vous, en même temps, il faisait son travail d'instituteur, donc on n'a pas pensé à le remercier. Ou bien une marraine ou une grand-mère, c'est votre grand-mère, donc elle s'est bien occupée de vous, c'est normal quelque part. Et en même temps, ça a été très important pour vous, et vous avez envie de lui dire et de lui expliquer pourquoi. Et c'est ça qui va générer beaucoup de bien-être des deux côtés.
Rebecca Chancland, est-ce que tout simplement la prière, et dans la prière l'action de grâce, n'est pas une façon de vivre la gratitude en plénitude aussi?
Tout à fait, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, la psychologie positive, en fait, n'a rien inventé. Simplement, ce sont des chercheurs, des scientifiques qui se sont dit comment ça se fait que ce type de pratique a l'air d'apporter plus de bien-être, plus d'altruisme? Donc, ils sont allés étudier de plus près. Mais effectivement, ça s'inspire beaucoup de pratiques qu'on a dans les religions.
Donc, ça ne fait que confirmer, j'allais
dire.
Tout à fait. Confirmer le fait de dire merci, et merci aussi à la nature, parce que là, la prière de Saint-François, c'est merci à la sœur lune, au frère soleil, aux oiseaux. C'est une grande source de gratitude, la nature.
Oui, complètement. Alors, ce n'est pas juste le fait de dire merci, c'est vraiment le sentiment de gratitude qui va générer plus d'altruisme, plus d'attention aux autres et aux animaux aussi, à la nature. Parce que le simple fait de dire merci, si c'est sous forme de listing, par exemple, il y a des fois des personnes qui viennent et qui vous font une liste de merci. Et en fait, on ne perçoit pas vraiment l'émotion qui est derrière. Et donc, ça n'a pas du tout les mêmes effets à la fois sur l'individu qui fait cette liste. S'il n'y a pas d'émotion de gratitude, ça n'aurait pas les effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Et puis, sur la personne qui reçoit les remerciements, ça va plutôt lui donner un sentiment de malaise. Elle ne va pas trop savoir quoi en faire. Voilà, elle peut être agacée. Donc, c'est vraiment important de rester dans l'authenticité. C'est-à-dire, on peut essayer de cultiver cette émotion en étant plus attentif à la nature et aux autres. Mais on ne peut pas simplement se forcer à dire merci, parce que dans ce cas-là, on n'aura pas du tout les effets recherchés.
Alors, il y a différents lieux, bien sûr, où on peut le vivre. Donc, ça prend toute la sphère de la vie d'une personne. Alors, on a déjà parlé du lieu comme la famille, où pendant un repas du soir, on peut aussi rendre grâce. Alors, dans votre livre, il y a plein de petits exemples. Il y en a un qui m'a beaucoup plu. Par exemple, se poser la question, qu'as-tu entendu qui t'a fait sourire aujourd'hui? C'est joli.
Oui.
On peut susciter aussi.
C'est
ce genre.
Ça. On va essayer de susciter, de trouver des moyens de se souvenir de ces moments-là, parce que sinon, les moments qui prennent le dessus, ce sont les moments qui ont été difficiles. Et donc, on commence toujours par raconter ce qui n'a pas été à l'école. Nous, quand les enfants rentrent, ils nous disent « il y a Maëlle qui m'a tapé », etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment non pas de ne pas écouter ce qui a été difficile, mais de se dire « ah, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans dans ta journée? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait sourire? Et donc, on va avoir accès à d'autres aspects, et notamment l'humour. C'est vraiment une dimension très importante dans le quotidien qui va nous aider à faire face à des situations difficiles.
Oui, mais la gratitude, l'humour, ça demande aussi une distanciation par rapport à ce qui s'est vécu.
Exactement. Donc, c'est aussi un entraînement vraiment de l'attention. Et donc, les enfants, pour les plus jeunes, ça peut être plus difficile. Hein. Donc, ça nécessite un entraînement de se dire, tiens, comment est-ce que je peux revoir les choses sous un autre angle? Et c'est ça qui va nous permettre l'humour par rapport à son quotidien.
Alors, à l'école, par exemple, vous dites que dans certaines écoles, il y a des boîtes à gratitude. Qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, donc, c'est des enseignants qui se sont finalement saisis de ces recherches en psychologie positive et qui se sont dit, ben, on pourrait développer ça pour améliorer le climat de classe, pour favoriser des meilleures relations et notamment à la rentrée, puisqu'il s'agit d'essayer de créer des liens sociaux positifs. Et donc, ils ont développé cette boîte de gratitude, c'est-à-dire qu'on propose aux enfants de noter des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. J'ai envie de dire merci à Julien parce qu'il m'a aidé pour l'exercice de maths, etc. Et donc, ils mettent ça dans la boîte et à la fin de la semaine, l'enseignant ouvre la boîte et lit tous les éléments de gratitude de la classe. Et donc, c'est un moment qui est très attendu hein, par les élèves et les enseignants décrivent comment ça a vraiment changé la dynamique dans les classes parce que souvent à la rentrée, les enfants vont chercher à se faire une place dans le groupe plutôt en critiquant d'autres. Donc on a ça chez les adultes aussi hein, d'ailleurs, mais on va avoir tendance à plutôt rechercher tout ce qui est négatif chez les autres. Et là, on oriente tout de suite l'attention vers tout ce qu'on peut observer de positif dans les interactions et comment cultiver davantage ces aspects.
Vous donnez des exemples, une qui m'a beaucoup plu, un exemple qui m'a beaucoup plu. Je suis tombée, mais sans me faire mal. Ça, on voit bien les enfants dire ça. Mais vous parlez aussi des adultes, parce que c'est vrai, hein, on peut le vivre donc entre adultes, mais même aussi, vous dites, au travail. Alors ça, c'est une révolution de ne pas être dans la critique au travail. Et vous parlez de boucle de reconnaissance.
Oui, alors c'est vrai qu'on est vraiment dans une culture plutôt orientée vers la critique négative. Et d'ailleurs, c'est très valorisé socialement.
Par exemple, France, surtout.
Oui, alors en particulier en France, mais même dans les pays occidentaux, on va dire, par exemple, dans une étude qui avait été faite, il avait été demandé à des personnes de faire des critiques d'ouvrages positives ou négatives et les étudiants devaient évaluer l'intelligence des critiques positives et négatives, l'intelligence des personnes qui avaient rédigé ces critiques. Et ce qui apparaissait, c'est que systématiquement, les personnes qui avaient fait des critiques négatives étaient considérées comme plus intelligentes. Donc il y a vraiment une culture qui valorise l'esprit critique négatif. Et ce qu'on retrouve dans les entreprises, ben, c'est aussi une culture, et à l'école aussi, hein, de penser que c'est en montrant ce qui dysfonctionne, en pointant les choses qui ne vont pas, que les personnes vont s'améliorer. Donc on croit aussi que c'est comme ça qu'on va les aider. Ce n'est pas seulement pour critiquer, c'est une manière d'aider les gens, et en fait qui ne fonctionne pas. Et donc dans cette ambiance-là, c'est plus compliqué d'exprimer des émotions telles que la gratitude, parce qu'on a l'air d'un doux naïf, d'un rêveur, le monde des bisounours, etc. Et donc parfois ça peut être aussi mal interprété dans les entreprises. On se dit « Ah mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me dit merci? Est-ce qu'il va me demander quelque chose en retour ?» Ou bien d'autres managers nous racontaient comment ils avaient l'habitude, par exemple une personne qui était de culture d'Amérique latine, qui avait l'habitude d'exprimer ses émotions, et donc elle a dit merci à ses ouvriers pour tout le travail qu'ils faisaient, et les ouvriers ont dit « Ah oui, c'est bien gentil, t'es merci, mais nous ce qui nous intéresse c'est une augmentation ». Donc il y a toutes sortes de dimensions qui ne sont pas simples à gérer au travail par rapport à l'expression de la gratitude.
Alors, vous donnez comme exemple, peut-être essayer de faire une liste pour chaque personne, une liste de ses qualités.
Oui, alors plus que ses qualités, c'est plutôt en quoi elles contribuent au bon fonctionnement du quotidien. C'est-à-dire, on ne va pas simplement complimenter les personnes, ce qui n'aurait pas vraiment le même effet. C'est vraiment plus dans l'idée du collectif. Hein. La gratitude, c'est vraiment l'émotion prosociale par excellence. C'est l'émotion qui permet de se sentir connecté, de se soutenir. Et donc, on va plutôt aller pointer en quoi chaque personne au travail contribue à ce que les choses fonctionnent bien. Et c'est ça qui va augmenter la coopération dans les équipes.
80% d'engagement en plus quand on sait vivre la gratitude. Mais même concrètement, c'est incroyable de penser ça.
Oui, et encore une fois, c'est la gratitude authentique, c'est-à-dire qu'il y a aussi des dirigeants qui se sont emparés des travaux de psychologie positive et se sont dit « ça va augmenter la performance, l'engagement ». Mais en fait, si ça ne part pas, on va dire, du haut de la hiérarchie, si ce n'est pas une culture partagée, bah, ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme mettre des pansements sur des plaies qu'on continue à ouvrir.
Alors, qu'est-ce qui fonctionne ?
Ce qu'on propose, nous, en tout cas, d'un point de vue éthique, pour travailler avec les entreprises, c'est que ce soit vraiment un engagement de la direction, des managers, et en changeant la façon d'interagir avec les subordonnés, avec les collègues, les collaborateurs, bah, ça va modifier le bien-être de l'ensemble du personnel. Donc, si on part de la hiérarchie, c'est vraiment un engagement qui permet de changer la culture elle-même de l'entreprise.
Et Rebecca Chanclante, dans votre propre vie, qu'est-ce que la gratitude change ?
Ah, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai vraiment constaté comment, finalement, cette question de l'adaptation au quotidien est un élément fondamental de nos vies qui nous fait passer à côté des petites choses positives. Et c'est vrai que nous, on est très pris dans le quotidien aussi familial avec des enfants en bas âge, etc. Et régulièrement, avec mon conjoint, quand on se sent vraiment dépassé par tout ce qu'il y a à gérer, on prend juste un temps et on se dit, tiens, mais si cette chose-là ou si cette personne-là n'était pas là, comment serait la vie ? Et en fait, du coup, ça remet au centre, ça remet au cœur de nos vies ce qui est vraiment important. Et donc, on est moins impacté par tous les désagréments du quotidien. On se fait réveiller toute la nuit, etc. Mais on se dit, oui, mais si Lucie n'était pas là, ah ben, ce serait terrible. Parce qu'il y a tellement d'autres choses positives qu'on ne voit plus parce qu'on s'y est habitué depuis 4 ans.
Un grand merci Rebecca Chanclante, un grand merci d'ailleurs pour votre disponibilité. Je voudrais vous faire un petit cadeau pour finir, à vous et à tous les auditeurs. C'est un extrait de Marcel Proust que j'ai beaucoup aimé, que vous avez mis dans votre livre « Les pouvoirs de la gratitude » paru chez Odile Jacob. « Soyez reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes fleurissent. » Au revoir.